I know how it sounds.
La sexploratrice. Avec Mel Trudel.
La sexploratrice.
Radio X.
Bonsoir et merci d'être à l'écoute de La Sexploratrice en compagnie de Mel Trudel et Max Lacasse.
Bonsoir.
Bonsoir. Beau week-end, Max?
Oui, week-end chargé. J'étais allé chez les beaux-parents, des beaux moments en famille. C'était très plaisant. Et toi, comment ça a été?
Ah, ça a été une magnifique soirée. Soirée d'Halloween au salon de jeu avec une bonne centaine de célibataires.
Ben oui.
Camille, puis oui, il y avait des gens là-bas. C'était vraiment super. Les gens se sont donnés côté costume. C'est incroyable.
C'était quoi le plus beau costume?
Quelle belle soirée. Écoute, c'est une femme qui s'est créée un costume de soucoupe volante.
Hein?
Wow. Mais c'était hyper original. Vous pourrez voir ça là, sur la page Célibataire Québec. Là, on a déposé toutes les photos du photobooth. C'est rare, normalement, on met aucune photo de nos participants, mais là, avec leur accord, on le fait. Et,
et la question qu'on se pose tous, c'est est-ce que quelqu'un l'a fait monter au septième ciel?
Oh! Oh, c'est vrai, elle est repartie avec un numéro!
Oh! Voilà!
Elle est repartie avec un numéro! Et il y avait plusieurs auditeurs, il y a des gens qui nous ont reconnus, moi et puis oui, près de la sortie. C'était très drôle. C'était vraiment une belle soirée. Merci beaucoup d'avoir participé en si grand nombre, chers auditeurs, mais aussi tous les célibataires qui étaient présents. C'était vraiment une magnifique soirée. La prochaine est le 16 novembre au Phoenix du Parvis en Formule 6 à tard.
All right!
Yeah! Max!
Oui.
Grosse soirée ce soir.
Oh, ça, c'est une grosse soirée ce soir.
Oui. Grosse soirée ce soir. On a de la compagnie en studio, mais également par téléphone. On aura une autre invitée après la pause, donc restez avec nous pour en savoir plus. Mais on va tout de suite se diriger vers nos deux invités. Donc, on a la chance d'avoir notre chère Jennifer Gaudreau, qui est une collaboratrice régulière, si on peut dire ça comme ça. Elle va revenir quand même souvent dans l'émission. Donc, Jennifer, qui est inspecteur privée, mais également criminologue. Et elle est accompagnée ce soir de Mme Josée Rioux, présidente de l'Ordre des criminologues, professeure à l'université et fondatrice de trois maisons de thérapie en déviance sexuelle, qui sont situées notamment à Sherbrooke, Saint-Hubert, également en Beauce. Elle est également la fondatrice du RIMAS, donc le regroupement des intervenants en matière d'agression sexuelle. Bonsoir, mesdames.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation.
Merci à toi. C'est toujours un plaisir.
Oui, vraiment, c'est toujours un plaisir. Nos discussions font jaser. Il y a toujours des gens qui commentent et qui nous écrivent par la suite, donc c'est vraiment super le fun que vous soyez là toutes les deux.
Oui.
Et ce soir, on va parler de déviance sexuelle.
Ah oui.
Donc, on va faire le tour du sujet. Mais tout d'abord, j'ai une question. Bien, pour vous, Mme Rioux, vous êtes fondatrice de trois maisons de rétablissement.
Oui, trois maisons de thérapie qui donnaient des services aux auteurs parce que les centres n'ont jamais travaillé vraiment avec les victimes. Il y a déjà beaucoup, beaucoup de services qui existent auprès des victimes, mais il y avait peu de services à ce moment-là pour les auteurs de délits sexuels. Fait qu'on on a commencé avec une à Sherbrooke, puis après ça, on a continué avec une autre à Saint-Hubert, puis une autre en Beauce. Puis de journée en journée, ben ça a quand même pris beaucoup d'ampleur et il y a eu le regroupement qui a été mis sur pied aussi, qui, excusez la redondance, regroupait tous les intervenants au Québec qui donnaient des services aux agresseurs sexuels.
Et ces maisons-là, ça donne des résultats, là, on le voit. Hein, c'est...
Bien sûr, sinon ça n'existerait pas.
Ça n'existerait pas, mais ils devraient peut-être même en avoir. Est-ce que vous êtes surchargé?
Il y a actuellement, là, j'ai regardé les derniers chiffres, il y a 850 personnes au Québec qui sont en attente de service, ce qui veut dire la liste d'attente des centres, parce qu'il y a quand même un centre à peu près par grosse région, là, mais il y a des régions qui n'en ont pas du tout, les Îles-de-la-Madeleine, la Gaspésie, mais il y a un centre au moins par grosse région. Ils ont à peu près 8 mois d'attente. Fait que vous pouvez imaginer qu'un délinquant sexuel qui se mobilise pour aller faire un suivi et qui arrive et qu'on lui dit, ben pas avant 8 mois, il va se démobiliser. C'est certain qu'à quelque part, il va pas pouvoir embarquer... prendre un programme. Et bien sûr, ça va toucher les libérations conditionnelles parce qu'ils ne seront pas libérés. Ça va toucher beaucoup, beaucoup, beaucoup de sphères de la vie de cette personne-là, là, de ce délinquant-là, parce qu'il y a trop d'attentes actuellement.
Et est-ce que ce sont des gens principalement judiciarisés qui sont là ou quelqu'un qui serait aux prises avec des problèmes pourrait se rendre dans ce genre de centre-là sans avoir passé par le tribunal?
C'est rare que quelqu'un va d'emblée aller frapper à la porte d'un centre en disant « j'ai des fantasmes sexuels, j'ai fait des délits sexuels, j'ai besoin d'aide. » Souvent, ça va être davantage la justice qui va l'obliger souvent après sentence. Là, le juge va rarement condamner à faire un suivi, mais ils vont avoir de l'incarcération, pénitencier ou détention. Et bien là, ça va être les libérations conditionnelles qui vont les obliger. Mais du volontariat, vraiment, là, c'est des gens qui sont obligés généralement, ou ils vont avoir des pressions familiales, ils vont avoir des pressions de l'employeur, ils peuvent avoir des pressions d'un peu partout, qui vont faire que même s'ils n'ont pas un mandat judiciaire en arrière d'eux, ils vont le faire parce qu'ils sont obligés. Et souvent, c'est pas l'idéal, parce que c'est pas ça qui fonctionne le mieux. Là.
Mm-hmm. OK.
Non, on peut pas obliger quelqu'un à changer. Donc, on peut amener un âne à l'abreuvoir.
Au contraire, hein, quand on est obligé à quelque chose, parfois, ça va rendre les pulsions encore plus intenses.
Oui, bien, admettre un délit sexuel, c'est pas facile, parce qu'on comprend que dans la mentalité de la majorité des gens, un délit sexuel, c'est le geste le moins bien vu, mm-hmm, ou le plus écœurant, je vais le mettre entre guillemets, excusez mm-hmm le mot, là. Donc, d'admettre, on va aller dire, moi, je fais un traitement dans un centre de thérapie, c'est de dire, moi, j'admets être délinquant sexuel. C'est pas facile, c'est pas comme dire qu'on est alcoolique, puis déjà dire qu'on est alcoolique, c'est quelque chose. Fait qu'imaginez dire, moi, je suis pédophile, hey, là.
Mais ouais, c'est comme une stigmatisation qui est plus lourde, je crois, là. C'est mal vu, là.
Ben, c'est très tabou. Bon, oui, absolument.
Il y a des étiquettes rapides qui se mettent, puis ils ont de la misère à se défaire de ces étiquettes-là. Fait que c'est
Mais ils peuvent en guérir.
On guérit
Il y a de
pas.
L'espoir.
On guérit on... pas. Okay, on apprend à se contrôler.
Contrôler les pulsions,
on
c'est
ne
ça.
Guérit jamais de ça. Sans ça, on donnerait une pilule puis on serait correct. Là. Mais si on apprend à contrôler les pulsions, si on apprend à comprendre, qu'est-ce qui fait qu'on a commis des délits sexuels, parce que c'est quand même la base,
oui,
puis qu'après ça, on apprend des méthodes, des techniques pour apprendre à se contrôler, bien, on va diminuer le taux de récidive. Pas le rendre à zéro. Le risque zéro n'existe pas en délinquance sexuelle. Bien, il existe pas en santé, il n'existe pas plus en délinquance, là, même si c'est de la délinquance en général, mais au moins, on essaye de faire en sorte que les enfants, les femmes, les hommes puissent avoir quand même, être dans la rue puis se sentir un peu plus en sécurité.
Puis on parle d'un délai de combien de temps de la personne à partir du moment où elle est internée dans vos maisons, ou qu'elle va suivre des thérapies? Comment ça fonctionne?
Ils sont pas internés.
Okay. OK.
Les maisons, c'est tous des centres externes.
Ah.
C'est des organismes communautaires qui sont dans le réseau. Et c'est des suivis qui se font quotidiennement ou à la semaine. Généralement, ces délinquants-là vont être hébergés en maison de transition, OK, et ont comme condition de faire un suivi thérapeutique, parce que c'est vraiment un suivi spécialisé, là. C'est pas un centre d'entraide, là. On parle vraiment de suivi spécialisé avec des psychothérapeutes, sexologues, criminologues, peu importe, mais c'est des gens qui sont formés, qui sont capables de faire ce suivi-là, parce que c'est pas une simple problématique. C'est pas quelqu'un qui va voler un cap de roue. Là.
Ben
c'est quelqu'un qui touche les parties sexuelles d'un enfant, à grande majorité, ben, ça ne se gère pas comme ça. Là. Fait que ça peut être 18 mois, ça peut être 2 ans de thérapie, puis ça peut être beaucoup plus longtemps que ça, dépendamment de comment la problématique est cristallisée chez la personne. Là.
Et est-ce que vous êtes arrivé de voir des gens qui, clairement, n'allaient pas en sortir, outillés, là, des gens qui récidivaient tout ça? Est-ce que c'est vous, à ce moment-là, qui allez les dénoncer ou comment?
Bien, ça dépendait tout le temps, parce qu'il y a quand même un secret professionnel, hein, qui existe niveau des professions. Donc, si on sent qu'il y a un danger réel et immédiat, on peut peut-être lever le secret professionnel, mais si c'est quelque chose qui est allé du passé, on ne peut pas, nous, en tant qu'intervenants, aller appeler la police puis dire qu'il y a eu un délit qui a eu lieu il y a 2 ans, 3 ans. Mais s'il y a un enfant qui est en jeu, la sécurité d'un enfant au niveau de la pédophilie...
Sécurité d'autrui, là.
C'est
vous avez
sûr
pas le choix.
Que là, okay. on va vous choisir d'intervenir, mais c'est rare qu'ils vont venir nous le dire à nous. Généralement, c'est parce qu'ils vont se faire arrêter par la police.
Non,
là, on va savoir qu'il y a eu une récidive. Là, parce que de confier ça, ils savent très bien ce qui va arriver. Ils savent les conséquences quand ils sont en thérapie.
On parle de déviance sexuelle. Il y a aussi la paraphilie. Est-ce que c'est la même chose?
Bien, déviance, je vous dirais que c'est un gros mot à nous. Quand on travaille avec les personnes qui ont commis les auteurs, on va parler plus de délinquance que de déviance. Parce que la déviance, c'est un terme large, OK? Si on parle de paraphilie, ça, c'est quelque chose qui est encore beaucoup plus large. Les paraphilies vont englober des gestes qui ne sont pas criminels,
Des pratiques sexuelles.
Des pratiques sexuelles qui sont dans un manuel diagnostique de psychiatrie. On va parler de pratiques sexuelles. Le sadomasochisme va entrer dans les paraphilies, parce que paraphilie veut dire à côté de l'amour.
Ouais, okay.
Mais va aussi... on va retrouver l'exhibitionniste, le voyeuriste, le pédophile.
Des trucs qui peuvent être pratiqués tout en consentement. Là.
Exactement.
Il y a des choses qui se font dans le consentement, puis il y a aussi ce qui est dans le code criminel. Et c'est là, nous, qu'on intervient, les criminologues ou les sexologues, parce que quand on est du domaine du consentement, ces personnes-là, s'ils ne se sentent pas bien dans leur paraphilie, peuvent aller consulter un sexologue, mais ce ne sera pas dans un centre de thérapie comme le nôtre. Puis on n'est pas là pour aider, pour donner des services aux gens qui veulent juste arrêter, mettons, on va toujours prendre l'exemple du sadomasochisme, on peut avoir du travestisme, on peut avoir différents types de paraphilie. Nous, on n'aide pas ces gens-là. Les criminologues, on travaille avec les délinquants. C'est pour ça qu'on appelle ça un délinquant et non un déviant, parce qu'un délinquant fait vraiment relatif beaucoup plus à la loi.
Mais justement, de par le profil atypique de ces personnes-là, est-ce que le fonctionnement de ces centres de thérapie-là est comparable à ceux qu'on peut retrouver dans le domaine de la toxicomanie ou de l'alcoolisme, ou il doit avoir un fonctionnement qui est adapté à ces gens-là à l'intérieur du centre?
On va le comparer parce que l'alcoolisme, la violence ou la délinquance sexuelle, c'est une forme de dépendance, c'est une réponse à une problématique. OK? Donc, oui, on va adresser la problématique de la même façon, avec des ateliers, avec des moyens de comprendre, hein, parce que la base, c'est ça, hein, c'est quoi la genèse du problème, pour ensuite adapter les programmes en fonction du besoin de la personne, que ce soit un dépendant, que ce soit un homme violent ou une femme violente, que ce soit un délinquant sexuel, on doit adapter quand même. Mais je vous dirais qu'on a à peu près la gamme, la nappe de services là, va être similaire quand même, là, parce que c'est beaucoup de l'intervention de groupe, il y a peu de rencontres individuelles. Fait que c'est sûr que en anglais, on dit coast to coast, là, excusez, mais on va plus adapté des fois à une certaine problématique, la pédopornographie, qu'on ne va peut-être pas traiter de la même façon, parce qu'il y a différents types hein, de délinquance. Mais c'est généralement là, un programme, un service là, qui est adapté aux besoins de chaque problématique.
Moi, j'avais une question. En tout cas, du moins des gens que j'ai côtoyés un petit peu à travers ma carrière, certains m'ont parlé qu'ils prenaient des médicaments pour contrôler les pulsions. Est-ce que dans vos centres de thérapie, c'est quelque chose que vous voyez? Y a-t-il de l'efficacité par rapport à ça?
Ça, c'est, on appelle ça des anti-androgènes, OK? Ça va diminuer la libido, OK? Ou la conduite sexuelle d'un homme.
Ça apporte une baisse d'hormones?
C'est une baisse on appelle ça de testostérone. Okay? C'est vraiment la baisse de ce testostérone. Il y a une quantité de millimoles par litre, là, je ne vous amènerai pas là-dedans.
Okay.
Mais on appelle ça des anti-androgènes, le Depo-Provera ou l'Androcure ou autre chose, le Lupron. Mais c'est pour moi une modalité, mais ce n'est pas un traitement, parce que c'est pharmacologique. Fait que si la personne arrête son traitement pharmacologique, va revenir à ce qui était avant.
Mmh.
Donc, il faut qu'on soit capable de l'amener à traiter le côté psychologique.
Aussi. Les causes du problème, la souche.
Voilà, parce que si on combinait avec le Depo-Provera, puis il n'y a pas beaucoup de centres qui le font.
Depo-Provera, qui est aussi un contraceptif féminin.
C'est pour ça qu'on appelle ça un anti-androgène.
Oui, c'est ça, j'avais vu ça.
Donc, si on combine avec ça, c'est juste momentané pour diminuer la conduite sexuelle. Mais vous savez, hein, un délinquant sexuel, je vous dirais que la grande majorité du temps, ce n'est pas un problème sexuel, c'est une recherche de pouvoir.
C'est pas biologique, mais psychologique.
C'est ça, c'est une recherche du pouvoir. Fait que j'ai déjà dit, parce qu'il y a eu à un moment donné quelqu'un qui a été castré physiquement.
Oui, c'est ça, je voyais ça. Ça se fait-tu encore? Je sais, dans des pays, ça se fait.
Moi, mais pas ici, pas au
Québec. Non, je crois pas que ça se soit déjà fait.
Oui, ça s'est fait au Québec.
Oui, c'est vrai. Oh mon Dieu!
Oui, puis l'urologue avait dit « Monsieur est guéri ». Ben non, parce que monsieur, il a encore une tête, il a encore des mains, il a encore...
Il peut avoir des pulsions.
C'est ça, les pensées sont là. Puis souvent, il y a des psychiatres qui vont dire que si on n'a plus on produit plus de testostérone, qui augmente la conduite sexuelle, ben il va y avoir d'autres hormones qui vont prendre la relève. Mais comme c'est pas toujours sexuel, mais c'est beaucoup plus psychologique, ben, le dépôt Provera ou peu importe l'Androcure ou l'autre vont faire en sorte que ça va juste être momentané. Il faut vraiment... C'est pour ça, moi, que j'ai commencé à me spécialiser en délinquance sexuelle. C'est que j'étais en maison de transition, puis je me disais, tous les gars qui sortaient de la maison de transition, qui étaient sur le dépôt Provera à ce moment-là, parce qu'il y a d'autres médicaments, mais quand ils sortaient, ils arrêtaient leur traitement puis ils récidivaient.
Oui.
Moi, ma question en tant que criminologue qui veut protéger la société, c'est qu'est-ce qu'on va faire de plus? Alors, c'est pour ça que moi, je me suis spécialisée en délinquance sexuelle puis que j'ai ouvert
des centres de thérapie. C'est comme un problème psychologique de dire on a un problème psychologique varié. Et puis là, ben on, mettons, on a une dépression. Mais derrière la dépression, oui, on va avoir la pharmacologie, mais il y a la psychothérapie. C'est souvent
si on ne change pas d'environnement aussi.
C'est juste un plaster, la pharmacologie.
Exactement.
Là, okay? Parce que si tu l'enlèves, le plaster, le bobo va saigner encore. Fait que c'est pour ça qu'il y a peu de centres qui utilisent ça. Puis la castration physique, je vous dirais que j'en ai vu un ou deux là, au Québec là, depuis
Moi, j'ai une
autre
chose
là.
Aussi que j'ai vu puis que j'ai entendu. Parce que c'est sûr que moi, dans mon métier, j'ai des dossiers de crimes d'homicide sexuel. Là, donc... un peu le profil de Dahmer, là, le film Dahmer. L'avez-vous écouté, non?
Je ne l'ai pas écouté, je suis trop sensible.
Ben non, j'aime ça parce que c'est sûr que c'est inacceptable. Là, on se compare les homicides sexuels où il y a des crimes puis il y a des tueurs en série, mais derrière tout ça... Il y a une histoire qui a commencé, il y a des traumatismes qui a commencé, une escalade.
Des blessures d'enfance,
ça
j'imagine.
Pas comme ça, là. La délinquance sexuelle, c'est
exactement,
pas
ça remonte
une journée,
à loin.
Là, je deviens délinquant. C'est comme souvent nos clients ils disaient, c'est parce que j'ai bu. OK, mais l'alcool, c'est un désinhibiteur de libido, mais tu l'as en toi. Moi, si je prenais de l'alcool, j'aurais pas l'idée, ah tiens, je vais aller toucher les parties sexuelles d'un enfant. Mais pour quelqu'un qui déjà traîne ça par blessure, par difficulté dans sa jeunesse, aussi parce qu'ils ont été victimes, ben c'est sûr que l'alcool va être juste va augmenter le risque de passage à l'acte. Mm-hmm. Mais sinon, je veux dire, l'alcool n'est pas une excuse, la drogue n'est pas une excuse, mais il y a des blessures, c'est clair. Mm-hmm. Là, c'est pas des.
C'est ce qu'il faut guérir, gens. Finalement. C'est tenter de régler, pas de guérir, comme
j'ai
vous
J'ai souvent parlé, justement, des agresseurs, parce que moi, quand j'ai des dossiers comme ça, je suis très curieuse. Hein. Je fais autant la victime que l'agresseur pour écouter. Puis j'avais justement un cas vraiment où ce que j'ai eu les frissons, mais c'était plus fort que moi. En fait, quand j'ai rencontré la personne, j'ai demandé un petit peu qu'est-ce qui s'était passé là, à travers tout ça, là, comment ça s'est installé. Puis il était vraiment gentil parce qu'il m'a vraiment parlé à cœur ouvert. Là. Il me disait justement dans son enfance, il y avait un environnement social totalement inefficace. Il y a eu beaucoup d'abus, beaucoup de violence. Sa mère est alcoolique. Et là, il s'est comme réfugié un petit peu dans les fantasmes puis dans le monde sexuel pour justement
s'évader.
Se détendre. Ouais. Mais tranquillement, pas vite, tout le côté sombre qu'il y avait. La puberté est arrivée. Et puis là, ben, justement, la gratification sexuelle s'est un peu retournée envers autrui. Et là, a commencé l'alcool et on a une escalade. Et là, un peu, là, c'était parti.
Il y a beaucoup de souffrance.
Exactement.
Tu sais, sans excuser le geste, parce que j'ai jamais accepté ce que les gens faisaient. Puis j'ai fait ça pendant 25 ans, moi, travailler avec les délinquants sexuels. Sans excuser, il y a beaucoup de souffrance derrière. Et entre rien faire pour aider ces personnes-là et faire ce que je faisais, parce que souvent, on me disait toujours, je t'aime, toi, Josée, c'est ce que tu fais qu'on n'aime pas. Bien, entre ça et rien faire, je préférais faire quelque chose pour essayer au moins de diminuer le risque de récidive. C'est mon mandat, moi, en tant que criminologue, c'est de diminuer ce risque-là. Fait que de tendre la main puis de dire, bon, j'excuse pas ce que tu as fait, mais ce que je veux, c'est que tu recommences pas, bien, je pense que c'est comme ça qu'on commence à
ça
penser
en prend,
à travailler avec ces
ça
gens-là.
Ça en apprend parce que c'est très tabou, hein,
oui. Puis c'est pas sexy, tabou, là. Un intervenant, c'est rare qu'on ait de la misère. On a même de la misère à avoir des intervenants, parce que c'est pas sexy de dire, moi, je travaille en délinquance sexuelle, là.
Mais ouais, ça ouais, doit, ouais, puis ouais. Déjà qu'ils sont... On demande un peu partout, dans tous les domaines. Ça doit être vraiment difficile.
C'est pas évident, mais moi, j'ai jamais aimé être comme tout le monde, alors que travailler en délinquance sexuelle, c'était pour moi une belle façon de me démarquer.
Je suis originale, mais moi, d'un autre côté, c'est bon.
Exact. Et on parle souvent, nous, de sadomasochisme de BDSM ou de différentes pratiques en lien avec cet univers-là qui est fait dans le consentement des partenaires. Par contre, on se retrouve avec des expériences de domination et de soumission. Et j'ai déjà lu que quelqu'un, même si c'était en total consentement de la part des deux partenaires, à partir du moment où il y avait des marques sur le corps de quelqu'un, après la séance, la personne, et ce, malgré le consentement, je le répète, là, la personne pourrait porter plainte contre l'autre personne.
Oui, il n'y a pas personne qui ne va pas être capable de prouver le consentement. Puis,
exactement.
Mais des fois, c'est des ententes. Hein. Il va y avoir des mots entre les personnes.
Il y a du safe word et tout
c'est ça.
Mais quelqu'un, disons, qui pratique une séance BDSM et qui, sur le coup, waouh, c'est intense, a adoré ça. Et le lendemain, il fait comme, aïe, 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 ça n'a pas de bon sens, je suis même trop marquée. Et là, décide de porter plainte. Est-ce qu'il y a une entente écrite qui peut être faite entre les deux qui pourrait, à ce moment-là, être valide? Donc, c'est quand même un risque à prendre lorsqu'on pratique ça avec quelqu'un qu'on...
Mais généralement, c'est parce que tu y vas vraiment avec quelqu'un que tu connais.
Okay? Il faut.
Que tu sais qu'à quelque part, il est prêt à accepter les composantes de la relation. C'est ça, les risques et les conséquences du sadomasochisme. Mais généralement, c'est vraiment une personne consentante. Là. Mais oui, effectivement, il pourrait avoir une plainte, mais il n'y a rien. Il n'y a pas un document
légal. C'est à faire attention
et
ne pas pratiquer le sadomasochisme avec de purs inconnus.
C'est ça. Voilà.
Oui, parce que c'est déjà un comportement qui sort de la norme. Fait que déjà, quand ça sort de la norme, tu es déjà sur un fil, ou un fil où ce que tu marches déjà un pied peut-être de l'autre bord.
Bien, c'est un comportement qui est considéré comme étant déviant selon la loi, mais selon le
manuel diagnostique en psychiatrie, là, parce qu'il a fallu qu'on catégorise les déviances, l'alcoolisme
justement,
là-dedans.
Parlons de toutes ces déviances-là, la liste est longue lorsqu'on parle de troubles paraphiliques et de problèmes de paraphilie.
Oui.
Est-ce que c'est possible de pouvoir vivre, de maintenir un niveau de vie qui est somme toute assez convenable sans traiter ces troubles-là?
Bien sûr, tu peux faire du sadomasochisme.
Mais oui, c'est des pratiques...
C'est correct. Puis l'urophilie que je parlais, tu sais, des golden showers, le travestisme, il y a beaucoup de paraphilies qui peuvent être vécues entre des adultes consentants.
Exactement.
On ne le saura pas, là. On ne sait jamais.
Tant que ça n'avait pas dérangé votre quotidien et celui des
autres. On ne sait pas ce qu'il y a dans le sous-sol de notre voisin. Là,
il y a des donjons un peu partout.
Tu sais, toi?
On a des gens que vous ne pourriez même pas imaginer, là, des donjons.
Mais à partir du moment où on éprouve un malaise, là, c'est là où est-ce qu'il faut peut-être penser à consulter.
Ouais.
Mais quand on parle de la délinquance, là, on n'est vraiment pas sur le consentement parce qu'on arrive à des actes criminels.
C'est, au niveau de la
c'est
loi.
Légiféré dans le code criminel.
Mm-hmm. Quelqu'un qui voudrait consulter ou qui nous écoute présentement et qui se questionne à propos de certains comportements, est-ce qu'il peut contacter l'un de vos centres?
Il peut contacter, malheureusement, comme
je
disais.
Il y a beaucoup d'attentes. Vous allez le rediriger vers des
On peut le diriger en privé, mais le problème, c'est qu'en privé, ça coûte des sous. Et la grande majorité de notre clientèle, c'est pas des gens qui sont fortunés. Ils sortent de prison souvent. Moi, quand je travaillais beaucoup plus en délinquance, on n'avait pas encore beaucoup le phénomène de la pédopornographie. Mais ça a été en émergence. C'est quand j'ai travaillé aux libérations conditionnelles pendant 4 ans et quand je rencontrais des personnes qui avaient fait de la pédoporno, on s'en allait dans une marge ailleurs du pédophile standard. Là. Fait que c'est beaucoup d'adaptation, mais les programmes doivent aussi cheminer et changer. La pédoporno, ça fait peut-être 5 ans, 6 ans qu'on commence davantage dans chaque centre de thérapie à pouvoir prendre en charge cette clientèle-là. Mais avant, c'est pas le même principe, là. C'est de s'exciter sur des photos, d'en produire, d'en diffuser. C'est quand même une paraphilie qui va être différente d'un pédophile en tant que tel.
Mais quel est votre point de vue sur la question? Vous qui avez une longue expérience, les avis sont divisés sur la question. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on fait avec ces gens-là une fois qu'on les traite? Est-ce qu'il y a des avenues possibles de guérison? Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut anticiper ou il n'y a juste rien à faire puis tout ce qu'on peut faire, c'est contenir la paraphilie?
Bien, c'est sûr, comme je disais tantôt, il n'y a pas de guérison. OK? Il n'y a rien de miracle. Là. OK? Mais... Moi, j'ai travaillé longtemps avec eux autres et je le sais qu'on appelle ça un beau rétablissement. On va faire de la réinsertion sociale, amener la personne à comprendre et à, quand il vit quelque chose, ben il peut avoir un ancrage en communauté, il peut venir dans les centres, il y a des lignes téléphoniques qui existent, il y a beaucoup d'aide, même info sociale.
Comme un toxicomane qui sort de thérapie.
Mais sont-tu portés à aller vers cette aide-là?
De plus en plus, parce qu'il y en a qui... on voit les prisons, hein, on sent que nos pédophiles, avant, il y avait peu de sentences de prison.
Ouais.
Les juges étaient beaucoup plus cléments il y a plusieurs années.
Là,
mais
là,
maintenant,
ça l'a changé,
là, c'est ça, on les retrouve tout le temps en prison, ou presque. C'est rare qu'ils vont avoir une sentence à purge en collectivité. Donc, c'est sûr que ces gens-là, ils ont... des sentences, se ramassent en prison. Ce n'est pas des délinquants comme les délinquants normaux. Alors, c'est sûr que le temps en prison va être difficile, qu'on soit au pénitencier ou qu'on soit en centre de détention. Fait que c'est sûr qu'il y en a qui vont consulter. Puis comme je disais aussi, la conjointe, les pressions, il y a des gens comme ça là, qui vont être ouverts, mais il y en a d'autres qui ne le sont pas. Mais on ne peut pas forcer quelqu'un à changer.
Exact.
Comme je disais, on peut amener un âne à fontaine, mais on ne peut pas le forcer à boire. Mais c'est la même chose que de forcer quelqu'un à changer. Tant et aussi longtemps qu'on n'a pas décidé d'une prise
et qu'il ne reconnaîtra pas qu'il y a un problème.
Puis qu'il a besoin d'aide,
ben
qu'il veut changer.
Mais oui, il y a des problèmes aussi qui arrivent. Ça prend des problèmes aussi pour
c'est
arriver,
rare qu'ils vont venir avant. Okay? Ben en délinquance sexuelle, ben même en délinquance, c'est rare.
C'est rare qu'ils vont venir en prévention.
Oh, oui, c'est clair.
Ah, oui.
Okay? La prévention, okay. Elle peut se faire, mais généralement, nous, on dit qu'on est toujours en prévention tertiaire. C'est qu'on va prévenir la récidive, mais on ne prévient pas le geste. On ramasse les gens donc, qui y arrivent après un premier geste. Là.
Donc, contacter un psychologue ou un sexologue à ce moment-là.
C'est ça. Puis l'info-santé peut tout référer aussi, ces gens-là. Là. Ça, c'est clair. Là. Il peut avoir un peu
le partout, 811! Là. Voilà.
Moi, j'ai lu beaucoup de choses sur l'imagerie cérébrale, que certaines zones du cerveau ont été diagnostiquées chez certains délinquants sexuels qui ont fait des crimes au niveau sexuel, un peu l'hypothalamus, l'hypophyse. Vous, par rapport à ça, vous en pensez quoi? Parce que moi, j'ai lu beaucoup de choses. D'ailleurs, il y en a un qui s'appelle Christian Joyal, qui est à l'Université de Québec, Trois-Rivières. Vous savez c'est qui, oui. Il a porté beaucoup, beaucoup d'études, justement, sur des groupes échantillons pour faire l'imagerie cérébrale. C'est-à-dire,
mais c'est ce qui sécrète la testostérone et les différentes hormones, dans le fond, l'hypothalamus.
Oui,
c'est,
mais ils ont trouvé... Et on s'entend là. Ça, c'est rien prouvé encore, mais j'ai quand même lu beaucoup de choses par rapport à ça, qui disait qu'il y avait certaines parties du cerveau qui étaient peut-être surdéveloppées. Qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ça?
Tout est possible. Hein?
Ouais,
hein? Okay. Tu sais, l'humain, là, l'humain étant ce qu'il est, c'est difficile de comprendre le fonctionnement de l'humain dans son ensemble. Donc, parce que vous, moi et tout le monde, on se dit, comment ça tu peux penser à avoir des pensées sexuelles envers un enfant.
Envers des animaux.
Envers deux ans. C'est ça. Mais il y a quelque chose qui se passe dans la tête. Là. Fait que rien n'est exclu.
Mais
là.
Non. La nécrophilie, c'est quelque chose aussi. Là.
Voilà. On est encore au premier balbutiement, même si ça fait des années qu'on traite les délinquants sexuels.
Hey,
on
d'ailleurs,
avec
je
les
crois,
connaissances actuelles.
D'ailleurs, c'est à partir du 19e siècle qu'on a commencé de parler de perversion sexuelle. Ça fait pas longtemps, là, quand même, de tout ça. Là.
1849, autour de ça, les premières inventions des catégories.
T'as des belles recherches.
Puis ils ont commencé à en parler, mais la Grèce antique, là...
On a des beaux tableaux.
Moi, j'ai un chiffre, parce que, tu sais, on parle beaucoup, là, tu sais, il y a la déviance sexuelle, ça va, mais tu sais, on s'entend que plus ça va, aussi, la déviance sexuelle est malléable parce qu'elle évolue dans le temps. Là, avant, il y avait des choses qu'on n'acceptait pas, mais là, tu sais, là, tu fais une chronique là-dessus, puis il y a quand même plein de gens qui s'explorent des choses.
Ouais.
Mais si on regarde à l'échelle internationale, je lisais ça parce que j'ai beaucoup de livres à la maison, là. Dans 69 pays sur 193 pays, on réprimande encore l'homosexualité.
Oui.
Dans 11, on sanctionne la peine de mort. C'est quelque chose, là. Juste ça, là.
Ça fait pas longtemps que dans le code criminel, on a enlevé la sodomie, là.
Oui. Okay? C'est quelque chose, là.
Ça fait pas longtemps que ça a été là, aboli, là.
Mais la polygamie, ici, c'est encore, je crois... Ben, le polyamour, tout ça, le monde est de moins en moins tabou, mais je pense qu'au sens de la loi, si je ne me trompe...
Mais tu peux pas te marier à deux personnes.
C'est ça, exact. C'est interdit, là. Tu sais, on n'est pas encore assez ouvert de ce côté-là. Mais au niveau des femmes, est-ce qu'il y a des femmes qui... J'imagine qu'il y a des femmes qui fréquentent quand même vos centres. Est-ce que ça vous est arrivé d'en voir souvent ou pas vraiment?
On en a vu, des grands moments.
Oui,
certaines.
On
a eu une mère qui avait fait des contacts sexuels sur son garçon adolescent et l'ami de son adolescent. Et l'adolescent est devenu aussi délinquant sexuel. Fait qu'on avait la mère et le fils, OK, dans nos centres de thérapie.
Ouch.
Mais je vous dirais qu'au niveau des femmes, on le voit beaucoup moins souvent. Est-ce qu'il y en a moins? La femme,
pas sûr,
physiquement,
ouais.
Elle ne va pas réagir de la même façon. Ça se voit moins, la réaction
les
de la femme.
Les gestes d'une femme et ceux d'un homme ne sont pas vus de la même façon.
Non, parce que la femme est encore là à donner les soins à l'enfant. Fait que si elle s'attarde sur les parties sexuelles de son garçon, ben, on va moins se poser de questions que si c'est l'homme qui va le faire. Parce que l'homme, physiquement, il a une réponse... qu'on peut voir, mais pas chez la femme. Fait qu'il y en a. Il y a aussi des femmes, des conjointes qui vont suivre leur conjoint sur tous les délits sexuels. On se ramène à Paul Bernardeau et Carla Homolka.
Effectivement.
C'était comme ça, là.
Oui. Okay? Elles sont influencées.
C'est ça. Moi, j'appelle ça les conjointes suiveuses. Que s'il n'y avait pas été avec ce conjoint-là, peut-être qu'il n'aurait jamais fait ça. Mais il y en a maintenant, là. OK? C'est qu'on les voit moins, on en discute moins, mais... Quand j'étais à la commission des libérations conditionnelles, j'en ai vu certaines qui avaient fait ces délits-là.
On peut prendre un exemple.
Mais la proportion est beaucoup plus petite, là.
OK. Moi, j'ai un exemple concret.
Jusqu'à où les femmes le gardent secret, là, tu sais?
Mais moi, j'ai un exemple concret, en fait, qui est arrivé à un jeune autour de moi qui, à l'école, sa professeure le chatouillait tout le temps, puis ça le rendait mal à l'aise.
Je comprends donc.
Et quand il en a parlé à un ami, une professeure est intervenue et il a utilisé les mots, il a dit... Madame X, me touche tout le temps, puis je sais pas pourquoi elle me touche juste moi. Puis ça. Mais lui a utilisé le mot toucher parce que pour lui, c'était se faire toucher. Mais là, le directeur explose. T'as pas le droit d'accuser ta professeure de faire ça, Appelle les parents, votre fils a utilisé des mots très graves. Il a utilisé le mot « toucher », ce qui est le bon mot grave, du vocabulaire pour lui.
Voilà.
Oui, mais vous savez qu'aujourd'hui, de nos jours, on peut plus utiliser ce mot-là. OK, attendez un petit instant, là, c'est parce qu'il y avait un malaise. Bref, ça s'est retourné contre le petit garçon.
Non,
mais finalement, au final, ça s'est réglé. Mais durant quelques jours, c'est comme si sa réaction à qui il parlait de la situation à son ami a été mal perçue par un adulte qui l'a dénoncé au secrétariat et ça s'est retourné contre le petit garçon. Mais au final, lorsqu'il y a eu la rencontre avec les parents et la direction... Ça revient à une amie. Donc, arrive la rencontre de direction, inverse la situation. En fait, la personne, le parent, mentionne... Si ça avait été un professeur qui aurait chatouillé une élève, est-ce que ça aurait passé?
Ben,
ça n'aurait pas passé.
La victime n'aurait pas eu
à se justifier puis à s'excuser.
C'est ça.
Là, au final, ils se sont excusés à l'enfant. Mais cet enfant-là, aujourd'hui, s'il revit une situation malaisante, est-ce qu'il va oser en parler?
Ben non, c'est clair.
Je pense que non. Donc, c'est fou parce que c'est la même situation qui aurait pu se produire à l'inverse et l'inverse aurait été condamné, mais pas dans cette
situation. C'est comme souvent encore l'odieux à la vie. On donne encore le poids ou la responsabilité à la victime de prouver.
Oui,
c'est ça qui est malheureux, hein, parce qu'une victime est déjà victime. Et si on lui demande encore d'expliquer puis de prouver, puis ben c'est la revictimiser. Ils n'ont pas besoin de ça.
Mais non, okay? Puis il faisait que se questionner. C'était totalement légitime. Il se confiait à un ami que la conversation était perçue par une adulte et ça a été ramené. C'est épouvantable.
Selon votre expérience, Josée, c'est quoi la proportion des délinquants qui ont déjà été victimes avant?
C'est difficile de mettre un chiffre parce que le chiffre noir en délinquance, ce qui veut dire les délits non rapportés en délinquance sexuelle, c'est ce qu'il y a de majeur, OK?
Non,
les gens portent pas plainte.
Okay.
Puis quand c'était des hommes avant, encore là... porter plainte, il y avait beaucoup de difficultés à se faire prendre au sérieux. Moi, j'ai déjà accompagné un délinquant sexuel qui voulait aussi porter plainte contre son agresseur. Il était devenu délinquant sexuel. On a tout écrit, on est arrivé au poste de police, puis il a dit « Je viens porter plainte pour agression sexuelle », et le policier est parti à rire. Il a reviré de bord, puis il n'a jamais, jamais voulu dire après ça qu'il avait été victime. C'est clair qu'il y en a beaucoup... Est-ce qu'il y en a... C'est parce qu'il ne faut pas faire une équation en disant « Si tu as été victime en bas âge, tu vas devenir agresseur. »
C'est
ça, il faut faire attention.
Ouais.
Mais comme il n'y a pas eu beaucoup de dénonciations il y a plusieurs années, c'est extrêmement difficile de le chiffrer. Mais il y en a. Moi, j'en ai eu qui avaient été victimes à ce moment-là, que ce soit un homme, que ce soit par un homme ou par une femme, il avait été victime. Souvent, on avait ma professeure, mais ça ne se disait pas. Pas les hommes, en tout cas. Les gars, les jeunes garçons le disent.
Mais je pense que c'est généralisé là, dans les problèmes sociétaux. Là, on en parlait là, justement dans le mode des manipulateurs, la violence conjugale. Là. Les femmes, elles sont violentes beaucoup. Ça passe inaperçu.
Mais souvent, c'est la violence verbale d'abord.
Puis un homme a encore de la difficulté.
Et le comportement est là quand même.
Puis un homme a encore de la difficulté à aller dénoncer, à être victime de violence conjugale. Parce que ce qu'ils vont dire, c'est voyons, défends-toi. Mais on ne dit pas ça à une femme. Victime.
Encore là, si mademoiselle pousse monsieur, ça passe. Si monsieur pousse mademoiselle, ça passe pas.
Imagine, on prend l'exemple. Le gars, tu sais, on va l'illustrer là, en exemple. Il s'en va voir les policiers, justement, là, puis il dit, garde, j'ai rencontré une fille d'un bord, puis elle m'a sauté dessus, là, puis elle m'a attaché, puis elle m'a frappé, puis... Tu sais, le gars, il est quand même traumatisé, là.
Mm-hmm. Mais même...
Tu sais, c'est ça. T'sais, si c'est comment arrivé... ça va être vu? C'est l'inversement par rapport au sexe. C'est incroyable, quand
ben,
même.
En fait, imaginons cette même situation où madame attache monsieur à un lit et le viole. J'ai déjà lu que ça peut être carrément un viol, et ce, même s'il y a érection, puisque l'érection est une réponse physique. Une réponse physique. Et ce, malgré le non-consentement de monsieur. Là. Donc, c'est un viol quand même. Même si vous avez une érection, vous avez été violé.
Mais il n'y a pas de consentement.
Puis le plus grand bonheur serait... Une victime, ça n'a pas de sexe. Que ce soit un homme ou une femme, c'est une victime.
Ouais.
Puis l'auteur, ça n'a pas de sexe. Que ce soit un homme ou une femme, c'est un auteur. Okay, c'est un délinquant ou une délinquante. Quand on arrive à ça, si on arrivait à ça, ben, le poids de la responsabilité de la dénonciation serait beaucoup moins grande chez la victime.
Ouais.
Surtout la victime masculine ou masculine, là, je ne sais pas trop comment est-ce qu'on le dit quand on parle des hommes, mais surtout la victime de sexe masculin, de dénoncer, c'est tellement difficile, mais il ne devrait pas avoir de difficultés.
Ben
une victime, c'est une victime.
Mais c'est difficile avec le système de justice qu'on a en ce moment parce que ça n'aboutit pas. Donc, la victime, même si elle fait les démarches,
mais c'est pas que ça aboutit pas. Souvent, c'est la parole de l'un contre la parole de l'autre,
malheureusement. Il n'y a pas de preuve. C'est ça, il n'y a pas de témoin, souvent.
Mais
c'est ça qui arrive.
Avec le tribunal spécialisé, je pense qu'on va arriver quand même à développer, ça fait un an et demi que c'est commencé, je pense qu'on va arriver à développer une bonne mécanique qui va faire que même si c'est la parole de l'un contre la parole de l'autre, il y a un bénéfice, il y a quand même le bénéfice du doute qu'il faut être donné. Et il y a tellement de techniques d'enquête maintenant que je pense qu'on va arriver à quelque chose de bien. Puis moi, j'encourage toutes les victimes à porter plainte parce que quand vous portez plainte, si on prend en charge le délinquant, bien, on va peut-être faire en sorte qu'on va diminuer le prochain nombre de victimes.
Mais oui.
C'est ça qu'il faut. Mais c'est extrêmement dur pour une victime de passer à travers tout
mais
ça.
Oui.
Il y a des remises, il y a des longueurs.
Revivre tout le traumatisme aussi.
Exactement.
Il va falloir qu'on trouve des méthodes, même si on a un tribunal spécialisé, il va falloir qu'on trouve des méthodes pour faire en sorte que les victimes ne soient pas à chaque fois revictimisées comme
mais c'est tout que, ça, c'est tout que défi. Là,
un détecteur de mensonges, ça pourrait pas aider.
Non, c'est pas admissible en preuve. Parce que chez les hommes, on peut évaluer en plétismographie, on appelle ça vraiment une forme d'évaluation des fantaisies sexuelles, mais c'est comme un détecteur de mensonges, mais qui est mis sur le pénis, et il y a des stimuli sexuels, non sexuels qui sont présentés, mais ça, c'est pas admissible en preuve, ça va juste permettre, quand tu fais une évaluation, de voir si lui dit qu'il n'y a aucun fantasme envers les enfants, puis quand il y a les stimuli sexuels déviants enfantins, bien là, il y a une érection parce que c'est enregistré sur un ordinateur.
Bien
là, c'est
en
sûr qu'on est capable de le confronter. En disant, regarde, tu me dis que tu n'as pas de fantasme, mais regarde là, ton schéma ou ton graphique de sensations que tu as eues. Parce que ce qui est mis sur le pénis, c'est un anneau de mercure et c'est très sensible. Fait qu'on est capable de voir s'il y a vraiment excitation ou pas. Fait que là, on peut avancer une forme de traitement. On peut regarder.
J'avais jamais
avec
entendu
lui.
Parler de
non,
ça.
Non, hey, c'est vraiment fascinant. Puis au terme d'histoires fascinantes, vous devez avoir eu votre lot aussi. Au fil de votre carrière, c'est quelle histoire qui a marqué le plus votre imaginaire?
Oh mon Dieu Seigneur, on entend tellement de choses, là. Je pense que c'est...
Ça avez-vous commencé... une nouvelle tendance, là, qu'on ne sait pas, là, que tout ne sait pas, t'aimerais ça, là?
Bien, moi, la première fois que j'ai travaillé avec un père incestueux, je travaillais au centre jeunesse, je n'étais même pas avec les délinquants sexuels, là. J'étais agent de relations humaines dans le temps, dans le bas du fleuve, et le père m'avait dit, c'est normal de mettre mon doigt dans le vagin de ma fille parce que mon père
Dieu.
Le faisait avec mes sœurs. Fait que vous voyez comment ça
Dieu.
Se traîne,
oh,
comment ça se porte. Puis là,
pantable.
Ben, tu te dis, mais voyons donc, comment
c'est
tu peux
pensées,
penser
c'est
ça? Mais un, c'est une distorsion, OK, de penser que c'est normal. Mais deux, il y a des gens qui vivent, c'est de famille en famille, puis c'est de génération en génération.
Donc, on dit que c'est pathologique à ce moment-là?
Bien, effectivement, puis le travail est beaucoup plus grand à faire. Mais j'ai vu, j'ai travaillé avec les adolescents aussi, là, quand on était là, 12 ans en montant. Là, j'avais un jeune de 12 ans qui avait été évalué déjà à ce moment-là comme un pervers à 12 ans. Il faut vraiment faire attention. Moi, j'ai toujours dit qu'avec les adolescents, on ne met pas d'étiquette. Au moins, on disait avoir des comportements sexuels inadéquats, pas que c'est un pédophile. Écoutez, tu as 14 ans, puis tu te sors comme l'idée que tu es pédophile, tu vas être de même toute ta vie. Il faut faire attention.
Mais oui. Mais, ça peut être... tu sais, il y a des gestes qui peuvent être isolés, mais qui ne peuvent pas nécessairement se cristalliser pour...
Fait que c'est pour ça qu'il faut faire attention de ne pas mettre des étiquettes.
Mais oui, c'est certain.
Ça, c'est clair. Là. Mais des histoires, écoutez, là, moi, j'ai fait 25 ans, là, fait que j'en ai-tu entendu hein, de toutes. On vient qu'à considérer que le geste est inadéquat, mais ça nous choque peut-être un peu moins parce qu'on est habitué, mais on ne se désensibilise pas à ça. On est beaucoup...
Ah, ça doit être épouvantable, mesdames, vous êtes
bonnes. On est empathique, mais moi, je ne pouvais pas être antipathique parce que je n'aurais pas pu aider.
Madame Rioux, elle est plus dans le niveau thérapeutique. Moi, je suis
dans la
recherche de preuves parce que j'en ai des dossiers comme ça, là, tu sais, justement, là, où ce que... ça va être des fois des clients qui ont perdu le compte puis qui veulent reprendre le dossier. Puis là, je reprends le dossier pour monter tout ça. Ça, c'est extraordinaire, là, parce que oui, j'en ai pas, mais il y en a quand même. Tu sais, il faut quand même prendre la peine de pas prendre les pyramides. Il y a des témoins, des fois, qui sont pas rencontrés. Mm-hmm. Tu sais, la personne qui va être victime de ce geste-là, il va avoir un comportement qui va changer. Il va avoir des gens qui vont avoir un comportement qui vont changer. Donc, souvent, moi, dans la prise de déclaration de témoin, ça m'est arrivé quand même à quelques reprises que j'ai apporté des preuves qui ont fait en sorte que ça leur virait. On a réouvert le dossier. Mais c'est ça, tu sais. C'est sûr que les preuves, on s'entend qu'elles ne sont pas faciles, mais moi, je pense que, comme dans n'importe quoi, que ça c'est n'importe quelle situation, il faut prendre chaque problème puis essayer de le décortiquer puis trouver des choses qu'on a manquées. Moi, c'est le puzzle, là, tu sais, mais il y en a. Il y a quand même des choses frappantes là, qu'il faut
Puis il y a des moments aider, où là. Il faut écouter aussi. Je me souviens, j'ai une famille qui est arrivée avec leur jeune de 14 ans qui disait, ma soeur, la dame disait, ma soeur qui était déficiente intellectuelle, dit que mon fils lui a touché les parties sexuelles. Mais le fils me disait, je ne l'ai pas fait. Puis le père disait, écoute, là, toi, là, tu vas te ramasser en centre d'accueil. Puis le jeune était vraiment malheureux. Puis il a 14 ans, il est dans mon bureau. Puis qui me dit, garde, je ne l'ai pas fait, là. Mais s'il faut que je te dise que je l'ai faite pour ne pas me ramasser en centre d'accueil, je vais te dire que je l'ai faite.
Est-ce faut que vous l'avez cru?
Là. Bien sûr. Fait que là, j'ai rencontré les parents puis j'ai dit, il va le dire qu'il l'a faite, mais tu le sais qu'il ne l'a pas faite. On ne peut pas juste dire, bien, gars, il y a une victime qui dit
ça peut être une simple vengeance.
Mais elle est allée voir sa mère, est allée voir sa sœur, puis la sœur, elle a dit, c'est vrai, j'ai menti. Oh, mais pouvez-vous imaginer...
Elle a peut-être détruit son frère à vie, là.
Si on n'avait pas cru...
La situation qui vient avec, pauvre petit.
Mais si on n'avait pas cru cet enfant-là, là, c'est lui qui aurait été poqué à vie, parce que
mais
là, oui,
mais il peut peut-être être poqué envers sa relation, envers les femmes à vie.
Mais on l'a pris vraiment avant, là. Je pense que ça n'a pas été le majeur. Mais moi, j'ai déjà vu un homme que sa fille a fait une plainte contre lui pour inceste et elle avait vraiment bien bâti son histoire.
Oh non, c'est ça.
Et l'homme a tout perdu, job, famille, tout. Il a fait 18 mois de prison. Puis quand la fille est devenue enceinte par la suite, elle a réalisé ce qu'elle avait fait et est allée dire à son père, c'est vrai que tu me l'avais pas fait, là. Elle est allée à la police, tout ça, là. Mais lui, là, il avait tout perdu. Je vous dis pas que c'est
des choses... Il y a l'étiquette qui va être collée à lui.
J'en ai un dossier qui était comme ça, justement.
Je ne dis pas qu'il faut faire attention puis pas croire les victimes. Il faut juste bien regarder le délit. Il faut juste bien écouter les personnes, les victimes, les auteurs, pour bien comprendre la situation. Parce que sinon, on va tout croire les victimes, mais il y a des auteurs qui vivent des choses particulières aussi. Tu sais, MeToo a fait beaucoup de belles choses, mais aussi, il y a des gens qui ont été dénoncés là-dessus.
Dénonciation publique, c'est épouvantable.
Voilà, ben, c'est ça que je voulais dire. C'est ça, c'est que ce qui fait en sorte qu'on parle d'un comportement qui est déviant ou d'un fantasme qui est consentant, c'est ça, c'est le consentement. Mm-hmm. Puis le consentement, ça glisse. Ça peut glisser facilement. Oui. Puis étant donné que ça peut justement faire en sorte que la personne, si elle est mal intentionnée, peut jouer vu qu'il n'y a pas de témoin, bien, la personne qui a la stigmatisation puis tout ce qui vient avec peut même en arriver jusqu'à une erreur judiciaire. Là. On en a vu de ça.
Mm-hmm. Ah ouais.
Moi, j'en ai un dossier justement que j'ai travaillé. D'ailleurs, l'homme, il m'avait téléphoné. Puis... sur le coup, justement, il m'appelle, qui est accusé comme ça d'inceste. Puis, sur le coup, ben, tu sais, on réagit tout comme ça, hein? Ah, oh, ouais, tiens. J'ai dit, correct. Là, moi, j'ai parlé à l'avocat. Ensuite, j'ai dit, là, montrez-moi, là, c'est quoi les preuves, comment ça se passe, tout ça. Puis, il me dit, il y a des affaires qui se tiennent pas, Mme Gaudreau. Ben, j'ai dit, c'est quoi? Il faut que je le sache, moi, là, là, avant de partir. Puis, effectivement, j'ai rencontré des témoins, j'ai rencontré plein d'affaires. Ça fonctionnait pas. Ça fonctionnait pas, là. Des coups, des ci, des ça. Mais le lendemain, la personne, elle va s'entraîner. Elle a aucun bleu. Normal. Mm. Pas normal, tu sais. Mm-hmm. Fait que c'est justement, tu sais, faut faire attention de dire est-ce qu'on l'a fait, est-ce qu'on l'a pas fait. Puis c'est un des enjeux, c'est ça, là. Tu sais, les dénonciations publiques, on en voit beaucoup.
Moi, je me dis...
Défendez-vous, là. Tu sais, des fois, là, on mais peut être aux prises et erreurs.
Tu portes plainte publiquement, il n'y a pas de témoin, tout ça, mais tu n'es pas allé à la police. On dirait que j'ai de la misère avec
c'est
ça.
C'est parce qu'on appelle ça, c'est vraiment une forme de justice sociale.
Oui, c'est ça.
Et faut faire attention parce que ça fait une mort sociale rapide, là. OK? La personne peut tout perdre.
Oui, je comprends.
Et c'est extrêmement dangereux.
Quand c'est les conditions.
Mais quand la personne a vraiment été victime et qu'elle n'a pas été capable de le dire, je comprends. Mais il y a des gens qui vont le faire vraiment. MeToo, pour moi, il peut avoir une petite portion par vengeance, puis il faut faire attention.
Mais oui, mais ouais. Pourquoi ne pas aller à la police? Pourquoi dénoncer
parce
publiquement
qu'ils vont
et
dire
pas
que
aller
ça
à la
donne
police?
Rien? Parce que la justice, vraie justice,
mais
ça va être peut-être un peu plus long, mais tu as l'impression que quand tu fais MeToo, c'est immédiat. Là.
Oui, mais okay. Moi, je pense que le MeToo devrait être d'abord derrière. Il devrait y avoir une plainte, d'abord officielle,
oui.
Et ensuite...
C'est ça, vas-y.
Faut que ça soit appuyé sur quelque chose.
Mais oui.
Toute personne est reconnue innocente jusqu'à preuve du contraire.
Exactement.
Ça fait partie
le tribunal
de la loi.
C'est le principe de la justice criminelle. C'est comme ça.
Quand on parle d'un délinquant sexuel non traité, est-ce que c'est possible qu'il y ait toujours une montée en puissance? Il y a un vieil adage qui disait dans le temps que le cannabis, c'est un peu un gateway drogue, vers l'héroïne, vers des drogues plus fortes. Est-ce que les délinquants sexuels sont plus en proie à commettre des actes violents, comme des homicides, s'ils ne sont pas traités?
C'est quand même assez rare. Pour la proportion de délinquants sexuels qu'on peut rencontrer, un homicidaire, là, c'est vraiment quelque chose qu'on voit de moins en moins. Puis c'est pas... un pédophile va rester pédophile, parce qu'il y a quand même des différences. Hein. Il y a des pédophiles, il y a des violeurs hommes à femmes, il y a les pédopornos, il y a les exhibitionnistes, il y a les voyeuristes. On en a plusieurs, là, est dans le code criminel. Mais t'as des exhibitionnistes qui vont faire ça toute leur vie. Ça va pas aller c'est pas un délit qui va être en émergence, mm-hmm. qui va faire que, tranquillement, pas vite, il va faire plus. Mais on peut voir des délinquants sexuels, pédophiles, qui pourraient aller un peu plus loin. Mais généralement, c'est de la pédophilie. Moi, je vous dirais que le meurtre, l'homicide, là, on n'en a vraiment pas vu souvent.
Ouais,
c'est sûr qu'ils ne viennent pas dans les centres de thérapie, mais pas pour avoir travaillé longtemps avec les jeunes du pénitencier. Il y en a moins. C'est pas une très grande proportion, là. Même pas 1% là, de toute la clientèle délinquante. Là. Fait que je pense que c'est un pédophile va être un pédophile, va aller chercher son pouvoir d'une certaine façon parce qu'il n'est pas capable d'avoir un impact envers les femmes adultes. Donc, c'est beaucoup plus facile que d'aller vers un enfant. Va faire ça toute sa vie, mais va pas aller
vers
un pédophile.
C'est comme de dire, ça, là, à partir d'aujourd'hui, on se fait demander, bon, on aime les hommes, on aime les femmes. À partir de lendemain, on fait, ben là, il faut que tu arrêtes d'aimer ça. Ben là, t'aimes ça? T'aimes ça ou t'aimes pas ça? C'est difficile pour eux, là, à quelque
ben
part.
Oui.
Là,
c'est ça,
c'est normal.
De développer un sentiment de compétence envers le monde adulte, c'est énormément difficile. Donc, faut travailler longtemps. C'est pas quelque chose qui se fait en 8 semaines.
J'ai tendance à dire... De ce que j'ai cru comprendre, de ce que je lis, mes connaissances, que les meilleurs taux de succès, c'est la thérapie cognitivo-comportementale. Parce qu'à quelque part, la pensée va faire en sorte qu'on se comporte, donc c'est relié.
Mais la
donc,
grande majorité des thérapies, c'est du
cognitivo-comportemental. Okay.
On va avoir des portions éducatives, on va avoir des portions ressenties où est-ce qu'on fait les liens avec la portion éducative, mais c'est...
Et comme on dit, le traitement médical va venir seulement mettre un pansement.
Il n'y en a
ça,
presque
là.
Pas de traitement médical. Là. Okay, tu vas le retrouver peut-être un peu à Québec, à l'Institut, où est-ce qu'il y a des psychiatres qui pourraient en prescrire chez certains, puis à Pinel. Mais quand tu es dans les centres de thérapie externe, externe dans le réseau communautaire, la majorité, il n'y en a pas de pharmacothérapie parce que les psychiatres ne sont pas associés, mais c'est vraiment du cognitivo-comportemental. On travaille ça, puis on amène la personne à comprendre, puis on amène la personne à se traiter, à développer des mécanismes comme un alcoolique quand il a envie de boire, comme un homme violent qui a envie d'aller chercher du pouvoir.
C'est une forme de dépendance.
C'est la recherche du pouvoir. Moi, je vais le voir comme ça, puis j'ai toujours travaillé comme ça. C'est la recherche du pouvoir, c'est l'autre. Il a l'impression qu'en allant chercher chez l'autre, il va en gagner chez lui. Nous, ce qu'on lui apprend à faire, c'est d'avoir du pouvoir sur lui-même, parce qu'on n'a pas de pouvoir sur les autres. C'est pas ça qui va faire que tu vas réussir dans la vie, c'est d'aller chercher du pouvoir chez l'autre. Donc, c'est ça qu'on travaille. Il y a des cycles d'offense qu'on travaille. Il y a tellement de choses, la satisfaction des besoins, la communication, les justifications. Il y a tellement de choses qu'on doit travailler. C'est pour ça que je vous dis que c'est de longue haleine.
Des pensées, des traumatismes. Des pensées, des traumatismes, là, c'est ça, c'est beaucoup de temps.
C'est
là,
long à travailler, tout ça, là.
Oui. Merci beaucoup, mesdames, d'avoir accepté cette
belle invitation
ce soir. Ça a passé vite, c'est déjà la fin. Jennifer Gaudreau, criminologue et inspectrice privée.
Oui.
Josée Rioux, criminologue et présidente de l'Ordre des criminologues. Vous êtes professeure à l'Université Laval, fondatrice de 3 maisons de thérapie en déviance sexuelle, ainsi que la fondatrice de RIMAS, le regroupement d'intervenants en matière d'agression sexuelle. Bravo pour votre beau travail.
Vraiment.
Merci d'être là, vraiment.
Ouais, c'était bon,
et,
ça fait plaisir.
C'était vraiment un plaisir de vous recevoir. Vous écoutez La Sexe Exploratrice sur les ondes de choix, 98h Radio X.
La Sexploratrice.
La Sexploratrice. Avec Mel Trudel. Radio X.
Merci d'être à l'écoute de La Sexploratrice sur les ondes de choix, 98h Radio X. Quel beau segment en compagnie de nos deux criminologues, mon Dieu. Ça fait jaser. Écoutez, vous êtes nombreux sur le live. On avait la difficulté à lire et à garder le cap dans la conversation. Donc, on va quand même prendre le temps de vous répondre. On a présentement avec nous la fondatrice du groupe Womancy, Marie-Pierre Dombrowski. Bonsoir.
Hey, bonsoir, Mélanie.
Salut, Marie.
Allô?
Marie-Pierre, tu es la fondatrice du groupe Womancy, qui est une plateforme de remise en forme et de bien-être pour les mamans. Et toi, c'est vraiment suite à un changement de cap, là, tu étais, t'as étudié en fait à l'université, là, t'es une bachelière de management marketing. T'as switché complètement avec ta nouvelle vie de maman, puis on le sait, la dépression postpartum vient avec la grossesse et le post-accouchement, là, les remises en question et tout ça. Donc toi, c'est ce qui t'est arrivé en gros, là, finalement.
Oui, bien, pas une dépression, mais pas loin. Le choc a été brutal, c'est comme ça que je l'appelle. En fait, c'est ça, moi, je suis bachelière en sciences de la gestion, je suis en management marketing. Puis ma première grossesse, ma remise en forme a été extrêmement difficile. Puis moi, je m'entraîne depuis que j'ai 17 ans. Fait que c'était atteindre mes objectifs, jongler avec ça, prise de masse ou peu importe. Et là, c'était la première fois que j'étais butée à un échec. Puis c'était pas juste ça, c'est tous les changements au niveau du couple, au niveau de la vie. On dirait que il n'y a rien qui te prépare à ça, en fait.
Ah, c'est un choc, c'est le bon mot, un choc.
C'est vraiment un choc, autant pour le corps que pour le couple, que pour toutes les connaissances aussi, parce qu'il faut comprendre qu'il y a le chamboulement hormonal, il y a le stress qui peut être vécu, l'entraînement aussi, la manière de s'entraîner. On ne peut pas juste recommencer ses circuits après 4 semaines d'entraînement, après un accouchement, et penser avoir des résultats. Donc moi, c'est vraiment... C'est tout ça, c'est tout ce mur-là qui m'a menée. Je suis retombée enceinte 6 mois après. Donc, oui, exactement. C'est vraiment là que j'ai voulu comprendre. Déjà, je n'étais pas remise en forme de ma première grossesse. Et j'ai commencé à faire des recherches. J'ai commencé à vraiment vouloir à m'approfondir puis comprendre, en fait. Puis là, quand j'ai compris, j'ai apporté des changements, bien sûr, dans ma vie. Ma deuxième remise en forme a été un succès. Mais j'avais envie vraiment d'aider d'autres femmes. C'est là que je suis allée me chercher plusieurs certifications aussi en entraînement, parce que c'est pas parce qu'on s'entraîne qu'on peut entraîner tout le monde.
Exactement.
Oui, exactement.
Là, les papas, écoutez, OK? Parce qu'on sait qu'on a beaucoup de papas qui nous écoutent en ce moment. Les mamans, ça va sans doute vous intéresser, mais les papas, là, écoutez ça et parlez-en à vos conjointes. C'est une plateforme extraordinaire dont on va vous parler, parce que là est venue la création du groupe Womancy, qui est la plateforme en ligne.
Oui, exactement, c'est ça. Nous, on a vraiment travaillé au niveau de fournir des ressources aux mamans et aux papas, en fait, parce que ça l'aide la maman, ça l'aide la famille.
Bien sûr!
Au niveau psychologique, au niveau santé pelvienne aussi, tu sais, on a plusieurs ateliers avec une psychologue sur les tensions dans le couple, l'anxiété, le quatrième trimestre qu'on l'appelle dans notre jargon, parce que c'est un quatrième trimestre, hein, le 3 mois post-accouchement. Puis les papas aussi peuvent se sentir vraiment...
impuissants.
C'est ça, leur place dans tout ça, de prendre leur place, ça peut être difficile, surtout si la maman allait, puis là, ils veulent l'aider, mais ils savent comme pas trop quoi faire, puis la maman, elle a les hormones dans le tapis, fait que là, ils comprennent juste pas, dans le fond, qu'est-ce qui se passe, parce que nous-mêmes, on a de la misère à comprendre. Fait que, tu sais, c'est vraiment une grosse période d'adaptation vis-à-vis ça, puis je pense que les papas aussi, ils vivent vraiment difficilement. On parle beaucoup des mamans, mais c'est pas juste les mamans, c'est les papas aussi.
Oui, vraiment. Et qu'est-ce qui différencie ta plateforme qui offre différents services en ligne versus d'autres cours virtuels, par exemple, là, de mise en forme ou des trucs comme ça, là?
Oui, bien, premièrement, moi, je suis en direct, donc je fais du prénatal, postnatal, maman active.
Okay.
Donc, de voir quelque chose en direct pour les femmes enceintes, je pense qu'il n'y en a pas. On est un des seuls à Québec, c'est virtuellement. Puis c'est vraiment...
Au Québec, oui.
Au Québec, oui, ouais. Exactement. Puis c'est vraiment tout aussi le volet santé psychologique, santé pelvienne, que ce soit au niveau des douleurs aux relations sexuelles, parce que c'est commun. C'est des choses qui sont banalisées en postnatal. On se dit, j'ai donné la vie, c'est normal. Mon corps a changé. Ouais. Des fuites urinaires, c'est normal. Mais non, c'est pas normal d'avoir des fuites urinaires. Ça se règle, mais ça prend des professionnels. Donc, nous, on a fait appel à différents professionnels pour venir donner des ateliers, faire des plans sur notre plateforme. Et je suis moi-même entraîneuse certifiée en périnatalité. Donc, il y a beaucoup de mesures en pré-postnatal qu'il faut prendre autant pour prévenir la future maman que... reprendre l'activité normale. Donc, il y a une certaine marche à suivre. Puis souvent, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup sur les réseaux, des choses qui ne sont pas nécessairement adaptées. Donc, on a toute l'expertise de, par exemple, une plateforme régulière en ligne qui va venir supporter les mamans pour qu'ils atteignent leur objectif de manière réaliste. Parce que si on ne fait pas la bonne chose, bien, ça se peut qu'on ait des obstacles en cours de route, que ce soit autant au niveau de la santé mentale, de se dire qu'on est démotivé une journée, puis de tout se mettre une pression quand c'est normal d'avoir des hauts, des bas. Oui, exactement.
C'est vrai! C'est tabou, en fait. Puis même la santé pelvienne dont tu viens de parler... Hey,
ah, oui.
Hey, saute, là! On est une sacrée gang de mamans à ne pas pouvoir sauter sa trampoline, là!
Mais
il devrait y avoir des couches à peine à portée de main!
Mais c'est vrai, puis tu sais, ce que je trouve le plus drôle, c'est que le monde pense que c'est normal.
Ben non,
mais
c'est ça, exact!
Oui, non, c'est ça. C'est... Puis il y a une belle sensibilisation qui est faite par des physiothérapeutes au Québec. Il y en a de plus en plus qui en parlent, puis qui commencent à être connus. Puis, tu sais, des fois, ça peut être réglé par des choses banales, parce que souvent, on peut penser que c'est juste faire des Kegels, mais c'est pas juste ça. Des fois, ça peut être le contraire.
Kegel, on parle d'exercice de Kegel qui est le...
Ouais,
la contraction du muscle pelvien,
oui,
ou à l'aide de boules chinoises, des trucs comme ça, mais il y a plein d'autres trucs possibles.
Mais c'est ça, mais tu sais, une maman en postnatal, ça se peut qu'elle ait un plancher pelvien hypertonique. Ça veut dire qu'elle, ce serait contre-indiqué de faire ça, tu sais. Mm-hmm. Ça va juste rempirer son problème de fuite urinaire.
Imagine, mais oui.
Fait que tu sais, c'est comme toutes ces variations-là de dire, oh, j'accouche, je fais des Kegels, je suis correct. Fait que tu sais, comme... Ça se peut que tu sois hypertonique aussi, puis ça peut causer des douleurs aux relations sexuelles, un plancher pelvien hypertonique.
Ouais.
Fait que tu sais, c'est vraiment tous des points qui viennent affecter le mental d'une maman, qui peuvent la bloquer dans une remise en forme. Fait que nous, on pense vraiment par en arrière pour pouvoir aller par en avant de qu'est-ce qui pourrait bloquer la maman et même dans sa vie de famille, qui vient aussi en aide pour les papas.
Est-ce que tu constates, Marie-Pierre, qu'il y a vraiment un avant et un après pour les mamans qui assistent à tes séances?
Vraiment. Un gros, gros changement. Je pense que c'est tout l'équilibre qu'ils retrouvent. Puis une chose que j'ai observée, que je trouve triste aussi, c'est que je dirais que 80-90% des mamans qui arrivent, ils ont vraiment une optique de culture de la diète. Ils veulent absolument faire des choses restrictives, ils ont une pression sur les épaules. Et quand je leur explique que c'est pas comme ça qu'ils vont arriver à leurs objectifs, puis de premièrement s'enlever cette pression-là de ses épaules, de faire un plan réaliste, de respecter son corps, ils tombent en bas de leur chaise de dire que OK, je peux réussir comme ça, oui. Fait que c'est de retrouver cet équilibre-là en décrochant d'un poids sur une balance, d'accepter les changements corporels, parce qu'il y a des choses qui reviennent pas, hein, on sait.
Mais oui.
Là, ça peut changer, mais c'est vraiment de travailler différemment. Fait que quand ils arrivent à enlever cette pression-là, ils prennent goût à s'entraîner. Ils ont hâte dans leur séance.
Bien, ça brise l'isolement aussi, puis ça permet de connecter avec d'autres mamans qui vivent la même chose que nous. Et ça, c'est valide pour les futures mamans, les mamans, les femmes enceintes et les mamans, finalement. C'est ouvert
à
tous.
Exact, des mamans actives, on en a plein. On en a, en fait, de tous les niveaux. Là, même des femmes, j'en ai que avoir des enfants, c'est dans leur projet, puis qui ne sont pas encore mamans, puis qui sont dans le groupe aussi, parce qu'ils aiment ça. Tu sais, ça prépare bien aussi, là. Quelqu'un qui se dit « Ah, dans un an ou deux, je vais avoir des enfants », bien, ça peut faire aussi, là.
Bien oui! C'est un beau cadeau, justement, à offrir. Là, je sais que tu as un challenge qui est en cours, qui débutait aujourd'hui. Donc, pour les gens qui voudraient s'inscrire, il n'est pas trop tard. Et on a en plus un code promo à vous offrir, qui est le RadioX25.
Yes, un beau code promo. Et puis c'est ça, nous, on est en y a toujours des nouveaux challenges, des nouveaux programmes. On a l'espace Maman Sereine aussi, qui est une à deux séances et des routines de 10 minutes pour se reconnecter, en fait, pour respirer, faire du stretching. On a des nouvelles recettes chaque semaine. Enfin, j'en ai pas beaucoup parlé, mais on a aussi un volet nutrition, volet en jeu de maman, avec des nouveaux experts qui viennent à chaque mois. On va d'ailleurs recevoir une experte en finance qui va venir nous parler du budget en famille, une autre problématique des mamans que ça peut vraiment...
Mais oui, on n'y pense pas, mais ça peut être une source de conflit aussi, là, le budget familial.
Ah oui, c'est toutes des choses taboues qu'on ne parle
pas
trop.
Exact. Super intéressant.
Puis là, Marie-Pierre, les papas ne sont pas admis là. Hein. Moi, mettons que j'ai envie d'y aller, je peux pas.
Tu peux l'offrir à ta blonde.
Ah, ben voilà.
Oui. Mais on y réfléchit vraiment, par exemple.
Mais oui, de faire un espace pour les papas, là.
On va pas trop donner de scoop, mais c'est quelque chose qui est dans nos projets, oui.
Donc, restez à l'affût, le groupe womancy.com pour s'inscrire.
Yes, exactement. Abonnement, soit mensuel, semestriel ou annuel. Puis la personne a un essai gratuit aussi. On offre l'essai gratuit de 3 jours. Donc, tu sais, on est super ouvert d'esprit. Par rapport à ça, puis on a du pilates, de la zumba, du yoga, on touche vraiment à bien des branches.
C'est génial. Marie-Pierre Dombrowski, fondatrice du groupe Womancy, code promo de 25% de rabais avec le code RADIOX25. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation, c'est vraiment quelque chose d'hyper important dont j'avais envie de parler à notre auditoire, puis bravo pour ce que tu fais.
Merci.
Je sais
vous.
Que ça donne des résultats.
Merci, ça me fait super plaisir.
Merci beaucoup, chers auditeurs, d'avoir été parmi nous ce soir encore une fois. Vous étiez à l'écoute de La Sexploratrice sur les ondes de choix 98.1 Radio X.
La Sexploratrice.
Avec Mel Trudel. Exploratrice.